Vous êtes sur RTL.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
On a vu quand même un ton assez ferme d'Olivier Véran, on l'a entendu dans le son de sa voix, peut-être parce que lui-même est surpris des réactions marseillaises, notamment. On est avec Jean-Pierre, Jean-Pierre qui est dans le Gard. Est-ce que d'abord vous êtes touché?
Dans le Var,
pardonnez-moi, vous êtes à Saint-Raphaël. Excusez-moi. Est-ce que Saint-Raphaël, vous êtes touché par ces mesures-là?
Non, pour l'instant, on n'est pas touché, mais comme on est juste à côté,
exactement.
On est très inquiet, et je pense qu'il y a un effet de rebondissement, c'est-à-dire que j'ai peur que les clients soient de plus en plus rares. Vous voyez ce que je veux dire? Déjà, on a passé une saison, malgré tout ce qu'on peut en dire, voilà, qui a été extrêmement difficile, voilà, qui a été extrêmement courte. Je peux vous dire qu'ici, en plus, il y a le Roc d'Azur, qui est une compétition de VTT internationale qui se passe à la base nature de Fréjus, qui a été annulée. Au BAMO, c'est plus de 10 000 participants et ça amène plus de 100 000 personnes. Donc, vous savez bien que dans ces genres de manifestations, il y a le avant, le pendant et le après. Ça veut dire que les hôtels, toutes les réservations ont été annulées. Pour les restaurants, brasseries, crêperies, tout ce que vous voulez, ben, ça va être un manque à gagner absolument énorme. Et on comprend pas, quoi. On comprend pas, parce que en plus, c'est la même société qui organise le Tour de France.
Alors, voilà, Olivier Véran, à l'instant, parle de mort. Et il dit effectivement,
oui,
comme la situation est grave, il y a un danger mortel.
Monsieur Pau, il y avoir un danger mortel, ça va être pour nous aussi. Et toute la filière, parce qu'il faut aussi parler de tous nos producteurs, pour ceux qui, comme moi, voilà, excusez de parler de moi, mais qui utilisons nos producteurs locaux. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que eux, pendant ce temps-là, ils vont vendre à qui leur camelote? Ben, à personne. Voilà, il y a toute une filière derrière, parce qu'il faut y penser à eux. Voilà, il faut y penser à tous ces gens-là. Les gens chez qui on prend le vin aussi, tous les châteaux autour là. Hein, vous voyez ce que je veux dire? Chez qui on prend le vin, etc. Ils vont le vendre à qui leur vin?
Non, mais ce qui est incompréhensible en même temps, c'est qu'effectivement, on ferme les bars et les restaurants, mais les métros et les bus roulent dans Marseille. Donc l'argument de mort, je pourrais le renvoyer à Monsieur Véran. Je pourrais lui dire, j'entends bien, mais à ce moment-là, on ferme tout. Et c'est toute la difficulté.
À la limite, Monsieur Pro, qui ferme tout? Parce que si on fait zéro client, il vaut mieux qu'on soit fermé plutôt qu'on se regarde dans le blanc de l'œil entre midi et 15h et entre 19h et 22h.
Ce qui me frappe, c'est le mot d'Emmanuel Macron, c'était « il faut apprendre à vivre avec le virus ». Et manifestement, si on ferme, on n'apprend pas à vivre virus.
Vous n'apprenez pas à vivre
C'est pour
avec.
Ça que ça me paraît ambivalent. Christophe...
Comme le disait...
Oui.
Ah, pardonnez-moi Christophe, terminez Jean-Pierre et Christophe va pouvoir entrer en conversation avec vous. Jean-Pierre, ce que vous vouliez dire.
Oui, excusez-moi. Et comme le disait Philippe Etchebest, qu'on sanctionne les restaurateurs ou autres, ou magasins, ce que vous voulez, voilà, qui ne respectent pas, eux, les gestes barrières. Parce que nous, restaurateurs, on a les témoignages de nos clients et qui nous disent, la semaine dernière, ou il y a 3 jours, ou il y a 15 jours, on a été dans des endroits où rien n'est respecté. Et on est parti.
Alors Christophe est là. Christophe qui habite Paris. Christophe est peut-être sur une position différente. Bonjour Christophe.
Oui, bonjour à vous. Oui, assez différente. Et c'est pas parce que j'habite Paris. La première femme de ma vie était marseillaise, donc si vous voulez, j'aime beaucoup Marseille et tout ça n'a rien à voir. Hein. Je le dis un peu en rigolant et en joke, puisque ça apparaît beaucoup sur les réseaux sociaux. C'est Paris qui se venge. Enfin bref, on atteint des niveaux de bêtises. Moi, je vais vous dire les choses assez clairement. La première, c'est que je trouve que le gouvernement n'est pas assez sévère. J'approuve sans aucune réserve. Je vous le dis d'autant plus, Pascal, que j'ai un métier de conseiller en management. Et moi, dans mon métier, je dois faire du présentiel. Je dois être dans les entreprises. Donc, s'il y a quelqu'un qui souffre, d'accord, qui souffre en termes de chiffre d'affaires autour du zéro ou de pas grand chose depuis quelques mois, c'est bien moi. Donc, si vous voulez, simplement à un moment, il y a soit les corporatismes, soit les intérêts particuliers qui priment, ou soit c'est l'intérêt général. L'intérêt général fait que on doit absolument renforcer toutes les mesures. D'autant que la France, on imagine que la France est seule au monde. Je suis sidéré de notre inculture à regarder ce qui se passe à l'extérieur. Je prends un, Le Monde. Alors, le journal Le Monde, même s'il n'est plus ce qu'il était. Prenez l'article qui a été diffusé ce matin dans Le Monde sur l'état des lieux des mesures restrictives que malheureusement, des dizaines de gouvernements sont obligés de prendre. Ce n'est pas une histoire de France. Ce n'est pas uniquement la France. Ce n'est pas M. Macron et M. Véran qui se vengent d'un match de football perdu. Ce n'est pas M. Macron et M. Véran qui se vengent d'un M. Raoult. Le mal est beaucoup plus profond. En off, je peux vous dire que j'ai... alors, vous allez me dire, Christophe, vous nous dites ça sur l'antenne et on n'a pas la preuve. Je peux pas le dire. Et vous comprenez bien, Pascal, que parfois, il y a des choses que, en off que vous ne dites pas. Enfin, vous pouvez pas citer tous les gens que vous avez au téléphone et qui vous donnent des informations.
Au fait.
En off, je peux vous dire que dans des hôpitaux à Paris, il y a une très, très grande inquiétude. Il y a une résurgence.
Oui,
bah,
vous parlez,
réelle.
Oui, effectivement, qui est. Mais ce que. D'abord, on va marquer une page de publicité, mais la difficulté de la situation, c'est que ce virus, on va vivre avec maintenant 6 mois, 1 an, 2 ans.
1 an, tout à fait, Pascal.
Bon, et peut-être davantage. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On arrête tout? Et c'est toute la question.
C'est-à-dire que il faut apprendre.
Mais il y a des pans entiers de l'économie qui vont tomber, monsieur.
Mais Pascal, on est tout à fait d'accord.
Donc qu'est-ce qu'on fait?
Qu'est-ce qu'on fait? Sur les métiers du conseil.
Mais qu'est-ce qu'on fait de ces gens-là? Qu'est-ce qu'on dit aux restaurateurs et aux bars?
Parce que peut-être. Il n'y a pas que les restaurateurs. C'est dramatique pour ces gens-là.
J'entends bien, mais qu'est-ce que vous dites? Mais qu'est-ce qu'on fait alors avec ces gens-là?
Eh bien, on se responsabilise. On considère, on doit absolument les Français, Pascal.
Non, vous ne répondez pas à ma question. Qu'est-ce qu'on fait de tous les pans de l'économie qui tombent dans votre système? Parce que si vous voulez des mesures restrictives, pourquoi pas? Mais à ce moment-là, il y a plein de pans de l'économie qui tombent.
Oui, mais ce que vous dites, j'entends ce que vous dites. Mais permettez-moi de vous contredire.
Mais vous le direz après la pub. À tout de suite.
À tout de suite, Pascal.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro. 13h, 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
On était avec Christophe et c'est assez passionnant de l'entendre, évidemment. Mais avant cela, Laurent Tessier, bonjour.
Bonjour Pascal. Bonjour à tous.
Et avec
la fermeture des bars et restaurants à Marseille, ces mesures sont-elles excessives? Sont-elles justifiées? Bien, c'est affligeant, écrit Thierry sur la page Facebook de l'émission. Comment peut-on prendre ce type de mesures? On met en danger des restaurateurs, des professionnels qui ne sortiront jamais la tête de l'eau. C'est quoi la prochaine étape? Demande Fab. Tout fermer de nouveau, ne plus avoir de vie sociale. Patrice est catégorique, c'est dramatique ce qui arrive à tous ces gérants. Mais il fallait s'y attendre, déplore Nadine sur nos réseaux sociaux. Karine n'est pas étonnée par ces mesures. On avait dit qu'il fallait respecter les distances et porter des masques. Après, on s'étonne. En tout cas, bravo Christophe pour votre franc-parler, nous dit Aurélie. Oui, ces mesures sont indispensables.
Je pense souvent au récit, au livre de Bernard-Henri Lévy, ce virus qui rend fou, et je trouve qu'effectivement, il y a un peu de ça. On est avec Christophe. Christophe, hier, il y a eu 43 décès en 24 heures. En France, 43. C'est évidemment abominable pour les familles, mais c'est un chiffre relativement faible et même faible. Ce que je veux vous dire, c'est que si on était sûr que c'était utile et indispensable de fermer. Moi, j'aurais pas de souci avec ça, mais j'entends Philippe Parola, adjoint de Didier Raoult, qui dit on est en train de gagner la bataille, on est dans un plateau à Marseille, ça sert à rien. J'entends Martin Blachier, épidémiologiste, qui dit si on a les masques et s'il y a les mesures barrières, ça suffit. J'entends Michel Rubirola, maire de Marseille, elle n'est pas irresponsable, elle est médecin. Et elle dit ça n'a pas de sens de tout fermer comme cela en une heure.
Puis-je vous répondre, Pascal?
Vous êtes là pour ça.
J'entends aussi un des responsables du CHU de Marseille nous expliquer qu'à la Timone, la situation à nouveau devenait très préoccupante et que sur 70 lits de mémoire, hein, Pascal, veuillez m'excuser auprès de vos auditeurs, je n'ai pas le chiffre exact. Et donc quand je ne dis pas une chose exacte, je préfère le dire plutôt que de dire des mensonges. Mais qui disait que les 3/4, me semble-t-il, des lits qui étaient réservés à Marseille au Covid étaient pleins. Mais justement, ce que je voulais aussi vous dire, c'est que vous me dites qu'est-ce qu'on fait pour sauver évidemment ces restaurateurs, tous ces gens-là et d'autres. Hein, je pense à tous les techniciens dans l'événementiel qui n'ont rien. Je pense à au milieu de la culture qui est c'est un drame. Vous savez très bien que les théâtres et les cinémas continuent à vivre et on se demande comment. Mais moi, j'ai envie de vous dire, Pascal, que fait-on aussi pour essayer de sauver ces filières? Savez-vous ce qui se passe en Italie? Rien. En Espagne, rien. Dans des pays autour de nous, vous savez, Pascal, enfin les auditeurs savent que nous sommes quand même un pays qui allons mettre des milliards qu'il faudra bien un jour rembourser pour que justement des filières entières de notre pays ne tombent pas. Donc oui, il faut vivre avec. Et j'aimerais que nos politiques, en règle générale, soient davantage responsables. Que fait Madame Ruberola, la maire de Marseille, que vous connaissez, qui depuis des années nous explique sur tous les plateaux de télévision qu'il ne sert à rien de vacciner les enfants.
C'est un autre sujet. Non, je ne peux pas vous laisser, parce qu'il y a beaucoup d'auditeurs.
Il y a d'autres auditeurs qui peuvent parler. Dernier point, et je vous laisse, mais on ne peut pas dire, vous connaissez la situation marseillaise, et quand j'entends Renaud Muselier, Madame Ruberola, je ne peux pas m'empêcher, parce que c'est ça un des problèmes de notre pays. Un autre problème de notre pays qu'on a actuellement, c'est que dans 6 mois, il y a les régionales.
Mais faut que vous fassiez court.
On confond la politique sanitaire et la politique
tout court. Mais pardonnez-moi, nos confrères de la Provence, ils font pas de politique. Ils sont journalistes, ils sont responsables. Oui. Ce matin, la une de la Provence, ça s'appelle la punition. Donc
mais
tout
la punition,
Marseille,
mais parce que s'ils disent le contraire, vous connaissez Marseille. Bon, s'ils disent que c'est pas une punition,
mais tout Marseille ne comprend pas. Écoutez, moi je voudrais, vous savez, j'essaie toujours d'être le plus simple possible. Pourquoi les terrasses ne sont-elles pas ouvertes à Marseille? Puisque le virus, lorsqu'on est dehors, on nous explique qu'il n'y a pas de danger. Donc pourquoi est-ce qu'on ferme les restaurants entièrement et déjà qu'on ne garde pas les terrasses? Alors qu'à Paris, lors du déconfinement, les restaurants n'étaient pas ouverts, mais au moins les terrasses étaient ouvertes. Si vous arrivez à répondre à cette question, il n'y en a pas de réponse. Parce que la vérité, c'est que faudrait du cousu humain, faudrait effectivement...
La vérité, c'est que c'est un sujet extrêmement compliqué.
Mais ça, c'est très simple, ce que je vous dis. C'est très simple de dire les terrasses peuvent rester ouvertes. Ça ne me paraît pas très compliqué. Benoît est là. Benoît qui habite Marseille. Merci Christophe. Mais on peut pas faire qu'un tête-à-tête ensemble. Benoît.
Non, mais à bientôt,
Benoît est avec nous. Bonjour Benoît.
Allô.
Bonjour Benoît.
Bonjour Pascal.
Vous êtes conducteur de bus, vous êtes Marseillais ?
C'est ça.
Bon. Alors, donnez-nous le sentiment de Marseille ce matin.
Foutage de gueule. En fait, voilà, moi j'ai l'habitude d'aller prendre des cafés pendant mes pauses en terrasse. Les terrasses sont ouvertes, voilà. Et à chaque fois que je prends un café, on vient désinfecter ma place, on vient désinfecter ma table une fois que j'ai fini mon café. Par contre, mon bus sort à 4h30 du matin, il rentre à 1h, il n'est jamais désinfecté. Donc là, il faut m'expliquer, il y a un problème. On ferme les terrasses qui sont désinfectées, on ferme les restaurants qui sont désinfectés, mais on ne vient pas désinfecter les bus.
Donc ça, c'est pas bien. Pourquoi vos bus ne sont pas désinfectés?
Ah ben, ça, je sais pas, moi.
C'est très étonnant. C'est vous êtes dans votre bus toute la journée?
Ouais, à 7h.
Donc les gens ont le masque tout le temps?
Non, pas tout le temps.
Ah, ils n'ont pas tout le temps le masque?
Eh non.
Alors ça, c'est pas raisonnable. Et c'est pas responsable.
Voilà, vous en avez 1/5, 1/8 qui portent pas le masque.
1/5 qui... Ah oui, j'avais peur que ce soit 1/5 qui le porte. 13h18, on marque une pause et on vous reprend dans une seconde.
Ok.
Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL. Pascal Pro,
les auditeurs ont la parole sur RTL.
Et c'est donc Benoît qui est conducteur de bus qui dit, je ne vais pas reprendre exactement ce que vous disiez, mais chacun l'a compris, c'était comment l'expression que vous aviez employée ?
Je ne suis pas dans les arcanes.
Bon, en tout cas, vous avez le sentiment que toute la ville pense...
Après, moi, là, je parle, mais c'est, je pense que c'est majoritairement en France. Moi, il faudrait interroger de temps en temps les directeurs d'exploitation de transport en commun. Mmh. Parce qu'on les entend jamais parler, on les entend jamais certifier sur l'honneur que tout le monde porte bien le masque, que tout le monde...
Bon, vous avez le masque, en tout cas, quand vous conduisez.
Ah bah oui. Ouais. Heureusement.
Bon, bah merci Benoît pour ce témoignage. Olivier est là également, qui habite dans les Yvelines. Bonjour Olivier.
Bonjour Monsieur Pro.
Vous êtes dans quel secteur d'activité ?
Alors moi je suis dans l'événementiel.
Ah oui,
je m'occupe
ça, c'est
de
terrible.
L'organisation dans les salons.
Ouais, ça c'est terrible.
Et j'étais très marqué par l'intervention du restaurateur de tout à l'heure à Saint-Raphaël.
Jean-Pierre.
Et pour beaucoup de restaurateurs. Alors pour vous expliquer un petit peu ce que dans notre secteur d'activité. Je travaille dans l'organisation des salons, comme le Mondial de l'Auto ou le Salon du Bourget. Pour vous donner une idée, aujourd'hui, ça fait depuis le mois de mars, il n'y a pratiquement pas eu un salon en France. Donc il y a bien sûr aucune rentrée financière dans notre activité et les salons bien sûr s'annulent les uns après les autres. Mais ça a des impacts qui sont très très forts puisque en fait quand il y a des salons, ça fait marcher aussi la restauration qui est autour. Ça fait marcher aussi l'hôtellerie qui est autour avec les nuitées pour les gens qui viennent bien dans les salons, pour les exposants et les visiteurs. Bien fait marcher aussi les taxis, les VTC. Ça fait marcher énormément d'activités autour. En fait, on l'a chiffré à peu près, c'est 350 000 personnes qui sont impactées par le fait qu'il n'y ait plus de salons aujourd'hui en France. Et donc, moi, je trouve que les décisions qui ont été prises par le gouvernement, elles sont mal ciblées. Tout à l'heure, le restaurateur a dit il faut matraquer dans un sens les restaurateurs qui ne respectent pas les gestes barrières et qui n'imposent pas le masque dans leur établissement. Mais il faut pas punir tout le monde. Il y a plein de restaurateurs, et moi j'en vois partout, j'ai encore la chance de me déplacer pour mon métier, où tout est respecté, et puis il y en a plein où ça ne passe pas. Il y a eu un reportage qui est passé il y a 48 heures sur la rue de Lappe à Paris, où on voyait des bars avec des gens agglutinés, sans masque, sans rien. Qu'est-ce que fait l'État pour ça? Pourquoi punir toute une ville? Je parle pas spécialement de Marseille, une ville que je connais bien et que j'adore, en étant fan de l'OM. Voilà, mais ce serait pareil si c'était Paris, si c'était Rouen, si c'était Montpellier, si c'était Bordeaux. C'est pas toute une corporation qu'il faut punir. Ce sont les mauvais élèves. Et moi, je dirais.
Mais c'est compliqué. Convenez que votre système. C'est compliqué votre système.
Moi, ce que je trouve délirant, c'est le comportement de beaucoup de Français qui sont criminels dans un sens parce qu'ils peuvent mettre en danger la vie des autres. Mais ce qu'ils ne se rendent pas compte, c'est qu'ils sont criminels aussi d'une façon économique. C'est qu'ils mettent à mal un tas de secteurs, de pans de l'économie, parce qu'ils pensent que voilà, ça, ce qu'ils font en ne portant pas de masque, en n'ayant pas les bons gestes, ça n'a pas d'impact. Si, si, ça a des impacts sur tout le monde. Moi, je vais vous dire ce qui a déclenché le fait de vous appeler, c'est bien sûr ce restaurateur, mais aussi parce que en fait, à 11h, j'avais un call avec une entreprise pour laquelle je travaille, et en fait, il m'annonce que là, au 15 octobre, c'est fini, son activité, elle s'arrête. Il a eu bien le prêt de l'État, le PGC. Seul problème, c'est qu'il a payé ses fournisseurs avec. Et là, c'est fini. 15 octobre, il y aura 16 personnes au chômage. Donc je voudrais que les gens se mettent bien dans la tête quand ils ne portent pas un masque, quand ils n'ont pas les gestes barrières. Ce n'est pas seulement la vie des autres qui mettent en danger. La leur, premièrement, mais celle des autres aussi.
Mais c'est aussi, j'entends bien, Olivier.
Antipatriotique pour moi.
J'entends bien. Tout ce que vous dites est plein de bon sens sur les gestes barrières et effectivement sur le masque qu'il faut porter. Et nous n'avons pas d'autres attitudes, en tout cas d'autres lignes ici.
Si Christian, vous permettez, monsieur Pro, je vais vous donner un élément qui est quand même malheureux. Il y a quelques mois, alors, je n'ai pas voté pour lui. Mais Emmanuel Macron a dit nous sommes les Gaulois réfractaires et c'est difficile de faire marcher les Français dans certaines directions. Dans mon activité, je travaille avec l'Allemagne, je travaille avec l'Italie, je travaille avec la Suisse, je travaille avec la Belgique. Quand je discute avec mes collègues, ils n'ont pas ce genre de problème.
Oui, parce qu'on est un peuple, effectivement, qui peut-être est moins discipliné. Alors, je sais que je presse un peu les uns et les autres, mais j'essaie qu'on entende un maximum, forcément, d'auditeurs. Christian est là. Bonjour, Christian. Oui. Vous êtes restaurateur ?
Exactement, oui.
Vous êtes à Paris ?
À Paris, oui.
Bon.
Alors, j'ai écouté tous vos auditeurs. Il y a beaucoup de choses qui sont bien et pas bien dans l'ensemble. Vous disiez, vous, Pascal, que quand le gouvernement a autorisé la réouverture des bars à Paris, mais quand on voit des terrasses, comme l'auditeur auparavant nous disait, rue de Lappe, moi je vois ça aussi dans Paris, des terrasses où il y a 100, 120 personnes agglutinées à 30 cm ou 20 cm l'un de l'autre, où il n'y a pas le mètre de distance. On a beau être à l'extérieur, je pense que c'est quelque chose qui devrait être sanctionné. Et à quel montant sont les sanctions? Si on donne une contravention à 350 euros, vous pouvez accueillir 150 personnes et 350 euros sont rien.
Non, mais là, c'est quasiment impossible à organiser, sinon à faire appel à la responsabilité de chacun. Donc, effectivement, les plus jeunes
ont... La police peut passer, faire des contrôles et donner des contraventions.
Oui, mais certes, mais elle ne peut pas être derrière chaque personne. Et c'est vrai que les plus jeunes, notamment, parce qu'ils ont le sentiment d'être peu touchés par cette épidémie, sont sans doute moins vigilants que ceux qui ont plus de 70 ou 75 ans. Bon, on marque une petite pause. Il y a également le texte de Nicolas Bedos qui fait réagir. Moi, j'ai l'impression qu'il n'est pas pris... toujours comme il faudrait le prendre. Il y a une part effectivement de second degré. Le texte de Bedos commence comme ceci. Bon, allez, soyons francs, arrêtez tout, tout, les masques, les confinements, excepté face à vos parents très fragiles, quand ils le souhaitent, ce qui n'était pas le cas de mon père, meurtri à mort, d'être privé de notre amour, vivez à fond, tombez malade, allez au restaurant, gueulez les flicaillons, contredisez vos patrons, et les lâches directives gouvernementales, nous devons désormais vivre, quitte à mourir, nos aînés ont besoin de notre tendresse davantage que de nos précautions. On arrête d'arrêter, on vit, on aime, on a de la fièvre, on avance, on se retire de la zone grise, ce n'est pas la couleur de nos cœurs. Et puis, il poursuit en disant, et ce monde de pisse froid, etc., etc. Bon, il y a une part de provocation et aussi de second degré. J'ai l'impression que tout le monde ne l'a pas pris comme ça. Mais on pourra entendre un auditeur sur le texte de Nicolas Bedos. À tout de suite.
Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL.
Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Peut-être allons-nous être en ligne avec François Asselin, qui est le président de la CPME, la Confédération des petites et moyennes entreprises. Bonjour, monsieur Asselin.
Bonjour, Pascal Pro.
Vous étiez en ligne avec Bruno Le Maire. On est inquiet pour vous, évidemment, parce que c'est toutes vos entreprises qui sont en difficulté, qui sont concernées. Et puis, le sentiment que nous avons, et c'est ça qui nous paralyse, c'est que si ça ne durait que 15 jours... Mais c'est pour ça que la stratégie aujourd'hui à adopter, elle est d'abord difficile à mettre en place. Parce que ce virus, il est là pour un an, deux ans peut-être. Donc, qu'est-ce qu'on fait ?
Vous posez une sacrée question et pas facile à répondre parce que, vous savez, en fait... On n'a pas peur de mourir, on a plutôt peur de ne pas vivre, vous voyez ? Et c'était là toute la différence, c'est-à-dire que vivons, oui, avec les gestes barrières, avec notre gel hydroalcoolique, avec la distanciation physique, avec nos masques, mais vivons, bon sang de bonsoir. Et c'est vrai que je me mets à la place des gens de l'événementiel, des cafés, bars, restaurants, à qui on impose une seconde fermeture administrative, ils ont respecté. Pour l'immense majorité d'entre eux, ces protocoles sanitaires. Et pour cause, parce que, vous savez, dans une entreprise, si jamais vous avez le malheur de développer un cluster, un foyer épidémique, eh bien, c'est la fermeture de votre entreprise, c'est la fermeture de votre commerce. Autant vous dire qu'ils ont été et qu'ils savent être responsables.
C'est ça le paradoxe, alors, parce qu'il n'y a pas eu de cluster, et vous avez parfaitement raison de le signaler.
Ben non. Donc, c'est ainsi, c'est comme ça, ça tombe d'un seul coup comme ça sur la tête de nos entreprises, de nos entrepreneurs, et quand vous regardez la cartographie du pays, eh bien, vous apercevez que ces zones d'alerte, eh bien, vous avez plus de la moitié du pays qui est colorée en rouge pâle, ce qui veut dire que, de toute façon, on pointe la situation à Marseille, et on a raison, en Guadeloupe, et on a raison, mais toute la France aujourd'hui...
Nous sommes d'accord, mais qu'est-ce que vous dit Bruno Le Maire ?
Ah ben Bruno Le Maire, écoutez, qu'on a eu ce matin au téléphone, nous dit que dès cet après-midi, il devrait annoncer des mesures de soutien immédiates.
Oui, mais de soutien, c'est bien de vous soutenir, mais vos... c'est du chiffre d'affaires dont vous avez besoin. C'est pour
Est-ce
ça que...
Nous ne sommes pas, entre guillemets, des chasseurs de primes.
Mais j'entends bien, mais c'est pour ça que c'est Bruno Le Maire, est-ce qu'il se projette à 6 mois ? Par exemple, qu'est-ce qu'il vous dit de la situation ? Parce qu'on ne va pas trouver ou un traitement ou un vaccin dans les 6 mois, par exemple.
On est bien d'accord. C'est
donc le virus, il va toujours circuler. Parce que si on arrête 15 jours, alors ça va arrêter 15 jours et puis après, ça va reprendre. Puisqu'il circule à bas bruit, mais il circule.
Mais bien sûr, c'est pour ça que je vous disais, respectons ces protocoles, mais continuons à travailler, à vivre avec le respect.
Et quand vous lui dites ça, qu'est-ce qu'il vous répond ?
Oh, mais il nous répond tout simplement qu'il n'est pas le ministre de la Santé, ça on l'a bien compris, et que de toute façon, il est comme nous tous, il rame maintenant pour essayer, entre guillemets, de rendre comestible pour le plus grand nombre cette décision.
Mais on va tous mourir alors. Ah ouais. Vous voyez de quoi toutes ces activités, des pans entiers de l'économie française vont mourir.
Ben, c'est effectivement, il faut faire très attention à tout cela et surtout ne pas retomber dans ce qu'on a connu en disant tous aux abris, c'est grave. Bien évidemment, il ne faut pas prendre ça à la légère, on est tous d'accord. Et je vous le répète, les entreprises sont une colonne vertébrale du pays parce qu'elles ont respecté ces protocoles. Il faut bien le dire, si vous voulez. Et c'est peut-être là où, s'il y a un lieu où, entre guillemets, vous êtes à peu près sûr, où le protocole est respecté, c'est dans votre entreprise.
Je suis d'accord,
Voilà. Donc, faisons en sorte de s'appuyer là-dessus pour tout simplement continuer à vivre, etc.
Bon courage, monsieur Asselin. Virginie est là, je pense qu'elle ne pense pas du tout comme nous. Bon courage à vous. Et c'est vrai que Virginie qui nous écoute, qui est infirmière libérale, Isabelle et qui écoute notre discussion, qui n'est pas facile, hein, bien sûr. Hein, c'est pas facile d'avoir un seul avis définitif. Moi, ce qui me frappe, c'est que les médecins, même sur les faits, ne sont pas d'accord. C'est-à-dire qu'à Marseille, je le répète, Philippe Parola, Martin Blachier, Michel Rubirola, Renaud Muselier, c'est quatre médecins qui n'ont pas le même avis médical que Olivier Véran, qui est lui-même médecin. Et la vérité, c'est que le personnel médical, l'univers médical va sortir en lambeaux de cette épidémie. Parce que si on avait vraiment une source à laquelle on pourrait se raccrocher, un avis, une sorte d'arbitrage définitif, bah au moins on pourrait avoir un avis, si j'ose dire. Mais là, personne ne dit la même chose. Virginie, bonjour.
Oui, bonjour Pascal, comment allez-vous?
Bah écoutez, ça va mieux que les Marseillais, forcément, mais je pense à ces...
Les Marseillais ont un peu récolté, ils récoltent un petit peu ce qu'ils sèment. Je vais vous donner un exemple typique, je suis infirmière libérale, comme vous l'avez dit. Je travaille dans un arrondissement de Marseille qui n'est pas dans les quartiers nord, donc on ne va pas stigmatiser et dire que c'est toujours au même endroit que les choses se passent. J'habite dans le 12e arrondissement et je travaille dans le 12e arrondissement de Marseille. Donc toute ma tournée, c'est le 12e arrondissement de Marseille, qui est entre guillemets considéré, on va dire, comme les beaux quartiers. Moi, j'ai été particulièrement choquée le jour du match OM-PSG, comme je suis particulièrement choquée depuis le début de cette histoire, par tous les matchs de l'OM. Je m'explique. Je faisais ma tournée. Je passe devant une pizzeria. Il y avait au moins une pizzeria avec les pizzas à emporter, je précise. Il y avait les portes grandes ouvertes, la télé bien orientée et allumée sur le match, bien évidemment. Avec au moins une centaine de personnes, hommes, femmes, adultes, enfants, personnes âgées ou plus jeunes, qui étaient là, en train de vociférer devant le match, sans masque. Juste à côté, il y a un bar. Même histoire. Juste en face, il y a un bar. Même histoire. Dans la rue, dans une autre rue, il y a une pizzeria, un bar et un petit restaurant. Pareil. J'ai envie de dire que si les restaurateurs... Alors, il est difficile aujourd'hui, à cause de cette violence débile et complètement... je ne sais pas comment la qualifier. Où on prend peur, dès qu'on dit à quelqu'un de mettre un masque, parce qu'on ne sait pas s'il ne va pas nous sortir une batte de baseball ou s'il ne va pas partir et revenir avec quelqu'un pour nous faire la misère. Donc, on se retrouve à accepter le comportement et les restaurateurs, malheureusement, sont dans la même situation. C'est-à-dire que si, comme ce pauvre chauffeur de bus, qui est dans son droit de demander à ce que le masque soit porté et qui, malheureusement, en est mort. Ce pauvre père de famille qui, dans une laverie automatique, demande au monsieur de porter un masque, qui
j'entends
s'en va,
bien,
qui revient avec
bien,
ses amis.
Bien, mais,
je pense que les Marseillais sont en train de récolter, malheureusement, ce qu'ils sont semés.
Vous êtes un peu sévère pour les Marseillais, je vais vous dire pourquoi. C'est que Marseille est une terre d'accueil, une terre de villégiature et une terre de vacances. Évidemment, il y a plus de cas à Marseille que dans la Creuse, parce que cet été, beaucoup de gens sont allés à Marseille ou dans la région marseillaise.
Il n'y a pas que des meurtres marseillais. Mais on peut partir en vacances et porter un masque.
Mais j'entends bien, mais convenez aussi qu'avec le nombre de gens qui ont circulé à Marseille pendant les deux mois, avec effectivement les événements dont vous avez parlé, notamment après PSG Marseille, eh bien, malgré tout ça, j'ai envie de dire, il n'y a pas 100 personnes en ce moment dans les lits de réanimation de Marseille. Malgré tout
alors,
ce que vous
moi,
dites.
Moi, je vais vous dire,
donc,
j'ai, mon mari,
quand
alors,
même...
j'ai mon mari qui travaille dans un grand hôpital privé à Marseille, je n'ai pas le droit de citer le nom.
Oui.
Il y a 4 services de réanimation. Depuis un mois, même pas, tous les services de réanimation sont repassés en service Covid, accueil Covid. Ça veut dire qu'on a viré des services les patients qui avaient des AVC, les patients qui avaient des infarctus, les patients
bien,
qui avaient d'autres
sûr,
pathologies,
bien sûr, bien sûr.
Pour mettre des patients Covid. Et alors, autant vous dire que si cet hôpital privé, les 4 services, hein, sur 4 services de réanimation, 4 services sont pleins de patients Covid. Si cet hôpital qui est privé a ces 4 services de réanimation pleins de Covid, ça veut dire que les hôpitaux publics sont déjà pleins. de patients Covid. Donc moi, j'ai envie de dire, il y a un moment donné où... Où il faut arrêter de se voiler la face et de mettre la tête dans le trou et de se dire il y a des décrets qui ont été pris, ils ont été mal pris. D'accord, ils ont été déboutés par la justice, ils ont dit non, on peut pas interdire parce qu'on empêcherait les gens à la libre circulation en leur obligeant à mettre le masque partout. On leur a pas coupé les jambes, on leur a demandé de porter un masque. Je vois pas en quoi on les empêchait de circuler. J'ai envie de dire que au même titre que le matin on est obligé de s'habiller pour sortir dehors parce qu'on ne sort pas à poil, eh ben il faut qu'on prenne l'habitude.
On va faire la publicité. On va faire la publicité, je comprends, effectivement, je comprends ces arguments et qui s'entendent, et d'où la difficulté d'ailleurs d'avancer dans cette épidémie. À tout de suite.
Les auditeurs ont la parole.
Pascal Pro sur RTL. Jusqu'à 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Je vous ai lu tout à l'heure une partie du texte de Nicolas Bedos qu'il a publié sur son compte Instagram. Ça commence comme ça. Bon, allez, soyons francs, arrêtez tout, les masques, les confinements, etc., etc. Il termine en disant, on arrête d'arrêter, on vit, on aime, on a de la fièvre, on avance, on se retire de la zone grise. Et évidemment, ce texte a fait réagir la France entière jusqu'à Olivier Véran, le ministre de la Santé.
Je pourrais comprendre ce type de réflexion. C'est l'emporter des conséquences sur sa seule santé. Voilà, vivre quitte à en mourir, c'est une phrase à l'emporte-pièce qu'on peut lancer sur un blog, sur un compte Instagram. On peut faire un effet de tribune, ou c'est peut-être une façon, un exutoire personnel. Je pense que dans la période, on doit être extrêmement attentif, surtout quand on a beaucoup d'écoute autour de soi, à notre façon de nous exprimer et aux messages que nous véhiculons. Une société qui déciderait de faire l'impasse sur ses vieux, une société qui déciderait de faire l'impasse sur ses fragiles, sur ses précaires, et de faire l'impasse sur des morts évitables, ce n'est pas une société dans laquelle j'ai été éduqué, élevé, et dans laquelle j'ai envie d'éduquer mes enfants.
Ce n'est pas exactement d'ailleurs ce qu'il dit Nicolas Bedos, c'est aussi une parole d'artiste qu'il ne faut peut-être pas prendre au pied de la lettre, ce n'est pas une parole politique. Nous sommes avec Patrice. Bonjour Patrice.
Bonjour Pascal, vous m'entendez bien ?
Je vous entends excellemment bien.
Voilà, parfait, super, moi aussi. Voilà Pascal, donc avant de commencer mon propos, effectivement, nous avons un mot en commun qui est un mot inestimable. Il commence par la lettre J, jadis. Voilà.
Monsieur Jadis. Longtemps, voilà, j'ai cru jadis. Que je m'appelais Blondin. En fait, je m'appelle Monsieur Jadis. Ça s'appelle comme ça. Monsieur Jadis commence comme ça, le livre d'Antoine Blondin. Mais vous aimez bien Jadis, c'est ça ?
Oui, voilà, parce qu'en fait, souvent, vous employez ce mot.
Oui, j'aime bien Jadis, c'est vrai.
Voilà, ça nous ramène à une époque, effectivement, des pantalons en terre gale qui grattaient.
Je suis d'accord avec vous, mais ce n'est pas le sujet. Restons sur Nicolas Bedos.
Non, voilà, non, mais Nicolas Bedos, bon, je veux dire, bon, c'est un peu extrême ce qu'il dit, en fait, mais je pense que cette histoire de coronavirus, ça commence à fatiguer tout le monde, en fait, et faudrait savoir d'où vient ce virus, au lieu de prendre des mesures à l'emporte-pièce, je ferme les restaurants, les gens, ils n'ont plus de salaire. Vous savez que quand vous êtes artisan, vous n'avez pas droit au chômage, vous n'avez droit à rien du tout, hein, c'est votre business, quoi, en fait. Donc, ça commence vraiment à fatiguer la population. Je pense qu'il faudrait s'attaquer d'où vient ce virus, contrôler les marchandises qui rentrent en France, hein, parce que vous savez que le virus, c'est du Covid, ça vient des pangolins, ça vient des chauves-souris, donc il faudrait peut-être se poser la question de ce côté-ci.
Voilà. Mais je suis d'accord avec vous, mais bon, même si on savait d'où il vient, parce qu'on sait qu'il vient de Wuhan, alors effectivement, certains... complotiste, imagine qu'il a été artificiellement fabriqué. Mais
non,
aujourd'hui,
Pascal,
aujourd'hui, ça ne changerait pas grand-chose. Moi, ce qui m'importe, c'est qu'est-ce qu'on fait ensemble tous maintenant avec ce virus qui est
voilà,
là.
Voilà, Pascal, en fait, je ne suis pas du tout complotiste. Ce virus, il n'a pas été fabriqué par un laboratoire ou quoi que ce soit. C'est du braconnage.
Oui, mais on s'en fiche aujourd'hui. Vous voyez, ce matin, j'ai pas envie de... Ça ne va pas changer grand-chose que je sache comment il a été fait. Ce qui m'importe, c'est qu'est-ce qu'on fait.
Eh ben faut bloquer les marchandises pourries, quoi, en fait. Voilà, c'est clair.
Oui, mais c'est voilà. Maintenant...
Je ne peux pas vous dire mieux. Hein.
Oui, mais ça, elles sont bloquées, les marchandises pourries. Bon, Paul est là aussi pour parler de Bedos. Nicolas, bonjour Paul, qui habite dans le Var aussi, comme Patrice.
Bonjour Pascal, bonjour.
Bonjour, vous souriez.
Moi, je suis carrément d'accord avec ce que dit Nicolas Bedos. On doit vivre, on doit continuer à vivre. C'est pas la première fois qu'on a eu des épidémies, c'est pas la première fois qu'il y a eu des choses comme ça. Donc, on doit continuer à vivre. Par contre... le rôle du gouvernement, c'est pas de donner des ordres, de dire faut faire ça pour la population, mais le rôle du gouvernement, c'est de donner les moyens aux hôpitaux de soigner les gens malades. C'est là où est le gros problème. Par contre, je vous signale gentiment que en fermant des bars, des commerces, des entreprises et tout, ça va être catastrophique après. C'est ça qui est grave.
Nous sommes d'accord. La pub et on continue le débat tout de suite.
Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Pascal Pro.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
13h50, on est avec Paul. Paul sur Nicolas Bedos.
Oui, Pascal. Ben, comme je l'ai dit, je suis entièrement d'accord avec Nicolas. Et il faut laisser vivre les gens. Vous savez qu'il y a des gens qui sont morts dans des EHPAD parce qu'ils étaient seuls. La famille venait plus les voir parce qu'ils étaient interdits d'aller les voir. Et j'ai la mère d'un ami intime qui est décédé comme ça de tristesse dans son EHPAD, alors que c'était une personne qui était en pleine santé et tout ça. Donc, faut laisser vivre les gens. Maintenant, le rôle du gouvernement, c'est pas de faire des annonces sur les télés, sur les radios et tout. C'est de faire en sorte que les hôpitaux aient les moyens de soigner les gens. C'est pour ça.
Alors ça, c'est aussi un vrai débat, parce que moi, j'apprends, voilà. Et je sais pas si c'est vrai, qu'il y avait 5000 lits en réanimation au printemps. Paraît-il qu'il n'y a pas un lit de plus aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en 8 mois ou en 6 mois, on n'a pas appris de cette crise au point de mettre en place davantage de lits de réanimation. Et non seulement ça, mais on en aurait même moins, parce que ces lits de réanimation seraient pris pour toutes les opérations qu'on n'a pas faites au printemps. Donc si voilà, c'est vrai, ça montre que ceux qui gouvernent n'ont pas anticipé ce qui arrive actuellement.
Ils ne font pas le travail pour lesquels on les a élus. Un gouvernement, théoriquement, d'après la Constitution, il doit garantir la sécurité sociale et la sécurité physique des citoyens français. Donc il doit faire en sorte que les hôpitaux aient tout ce qu'il leur faut, que la police, que la gendarmerie, tout ce qu'il leur faut. C'est ça le rôle. On paye des impôts pour ça. On ne paye pas des impôts pour qu'ils fassent les pites à l'Assemblée ou quoi que ce soit. Et, je ne sais pas, il y a des trucs qui me chagrinent parce qu'on se demande.
En tout cas, ces mesures-là, c'est parce que l'hôpital est sous tension. Donc effectivement, oui. Si on avait par exemple 30 000 lits de réanimation, on n'aurait pas les mêmes soucis. Et moi, je m'étonne qu'on n'ait pas augmenté le nombre de lits de réanimation jusqu'à un chiffre extrêmement important qui permette que l'hôpital ne soit pas en tension. Mais bon, c'est une question un peu naïve peut-être. Tout à l'heure, Sylvain Maillard sera avec nous, les députés de Paris, les porte-parole du groupe de La République En Marche, il pourra répondre précisément à cette question. Merci Paul. Merci beaucoup. On peut peut-être, comme il nous reste juste 2 minutes, rendre hommage à Juliette Gréco, parce qu'on n'en a pas parlé. Et Evelyne est là et elle pourrait peut-être nous chanter une chanson pour nous donner du baume au cœur. Bonjour Evelyne.
Bonjour Pascal. Je voudrais quand même dire avant que j'ai eu la chance de pouvoir rencontrer Juliette Gréco alors que je tournais une émission avec aujourd'hui madame. Et que elle était venue rendre hommage à Jacques Brel avec Monsieur Joannest. Voilà.
Alors, chantez-nous. 1983. Joli. 83 aujourd'hui, madame. Je me souviens. Je me souviens du générique d'aujourd'hui, madame. Joli môme.
Joli Evelyne. Môme. T'es toute nue sous ton poule. Y a la rue qui est ma boule. Joli môme. T'as ton cœur à ton cou et le bonheur par en dessous, joli môme. T'as le rimmel qui fout le camp, c'est le dégel des amants, joli môme. Ta prairie, ça sent bon en dos aux amis, joli môme. T'es qu'une fleur du printemps qui se fout de l'heure et du temps, t'es qu'une rose éclatée que l'on pose à côté, joli môme. T'es qu'un brin de soleil dans le chagrin du réveil, t'es qu'une vampe qu'on éteint comme une lampe au matin, joli môme.
Bravo Evelyne, bravo, mais vous venez régulièrement et vraiment on applaudit.
Bravo Evelyne.
Bravo Evelyne, je salue dans ce studio, il aime venir nous voir et comme il est marseillais, je voulais quand même avoir son avis, Cyprien Sini.
Bonjour à tous.
Que dit-on? Qu'est-ce qu'on vous dit dans votre bonne ville de Marseille sur ces mesures?
Ça m'intéresse. Amusant que vous m'appeliez, j'ai eu mes parents au téléphone tout à l'heure.
Oui.
Et ben, ils sont un peu embêtés, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ils vont pas aller au restaurant, voilà. Bon, après ils ont plus de 70 ans, enfin mon père a plus de 70 ans.
Mais ils trouvent ça normal ou pas?
ils en sont plus à se dire c'est normal ou pas, ils sont pas restaurateurs, etc. Ils sont embêtés parce que voilà, ça limite la circulation. Après, ils font ce qu'ils peuvent, quoi. En revanche, mes copains de mon âge, restaurateurs et autres, ils sont pas contents du tout, non.
Bon, je vous ai écouté ce matin et je crois que vous aviez mis une petite musique ce matin que je voulais vous faire réécouter.
Comme le vin de Bordeaux dans ma tête étoilée.
Rouge, Michel Sardou. Comme la carte de France.
Comme le sang de Rimbaud.
Ouais, non, c'est compliqué.
On sourit, mais c'est pas drôle.
Ah non, non, c'est pas drôle du tout, non.
Merci Cyprien, j'aime bien quand vous venez nous dire...
C'est primordial comme intervention.
Mais j'aime bien quand vous venez nous dire bonjour et puis je vous écoute chaque matin. Laurent Tessier, présentation du débat entre 14h et 14h30.
La métropole d'Aix-Marseille-Provence et la Guadeloupe sont classées en zone d'alerte maximale. C'est le dernier niveau avant l'état d'urgence sanitaire. Olivier Véran, le ministre de la Santé, a annoncé de nouvelles mesures hier soir.
Il s'agit tout d'abord de la fermeture totale des bars et des restaurants, de la fermeture de l'ensemble des établissements recevant du public, sauf s'il existe un protocole sanitaire strict déjà mis en place. Ces dispositions, elles sont temporaires. L'objectif est qu'elles ne durent pas plus de 2 semaines.
Une fermeture prévue à partir de samedi. Les élus sont vent debout et parlent d'un affront, d'une annonce sans concertation, d'une punition collective. La maire de Marseille, Michèle Rubirola, était l'invitée de RTL Midi.
Les Marseillaises et les Marseillais n'ont jamais baissé la garde, au contraire. Et là, on nous sanctionne. Et ça, on ne le comprend pas. On n'est pas respecté, on n'est pas reconnu dans tous les efforts qu'on a fait. C'est une information qui nous est arrivée brute. Et comme on peut dire, on est carrément tombé de l'armoire quand on a appris ça.
Et la mairie de Marseille demande au gouvernement 10 jours avant la mise en œuvre de nouvelles œuvres. Laurent gère un restaurant sur le Vieux-Port depuis 27 ans. C'est un coup de massue.
Ces sanctions à répétition, c'est dur autant financièrement que psychologiquement. Il y a peut-être, comme dans toute corporation, quelques brebis galeuses. Mais à ce moment-là, pourquoi ne pas augmenter, enfin pas augmenter, puisqu'on n'en a jamais vu des contrôles. Hein. Pourquoi pas embaucher du monde pour faire des contrôles et sélectivement, effectivement, fermer tel ou tel établissement. On a l'impression que c'est une punition générale.
Mais quelle est la réalité de la situation sanitaire dans les bouches du Rhône? C'est vrai qu'on entend des avis différents. Un début de réponse.
Selon l'APHM, hôpitaux de Marseille, 45% des lits de réanimation sont aujourd'hui occupés par des patients Covid. Les trois quarts de ces malades atteints de formes graves sont âgés de plus de 65 ans.
Alors cette décision doit-elle nous surprendre après les propos aussi du Premier ministre Jean Castex il y a quelques jours?
Le virus est là pour quelques mois encore et nous devons réussir à vivre avec lui sans nous laisser entraîner à nouveau dans une logique de confinement généralisé.
Le débat est lancé dans l'émission. Ces mesures sont-elles excessives? Peut-on s'en prendre une nouvelle fois aux restaurateurs? Pourquoi sont-ils toujours pointés du doigt? Ces mesures sont-elles au contraire justifiées? La lutte contre la Covid-19 passe-t-elle par des sacrifices? Avec nous en studio, Sylvain Maillard, député de Paris et porte-parole du groupe La République En Marche à l'Assemblée nationale, et Roland Aigui, président de l'UMI, l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie.
Merci Laurent, on va marquer une pause dans une seconde. Je n'ai même pas salué Greg Caradoni qui est marseillais lui aussi.
Oh là là, bonjour à tous. Pardon, j'ai perdu mon micro, Pascal.
Bonjour, quelle histoire. Damien Béchiot est également présent. C'est l'occasion de saluer toute l'équipe des auditeurs qui travaillent aujourd'hui. Il y a Evan, il y a Cyranouche, il y a Olivier qui sont présents. Vous pouvez nous appeler. À tout de suite.
Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL
avec Pascal Pro.
Il est 14h.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pau.
Notre débat qui a déjà commencé en antenne. Olivier Bois est là. Olivier, le flash.
Et cette colère à Marseille, on en reparle effectivement avec vous, Pascal, dans un instant dans le débat du jour. La maire de Marseille, Michèle Rubirola, était l'invitée d'RTL à midi et demi. Elle demande un délai pour appliquer la fermeture des bars et des restaurants. Le gouvernement refuse d'ores et déjà et reproche aux élus locaux de faire de la politique. À Paris aussi, Anne Hidalgo parle de décisions difficiles à comprendre. Dans la capitale, comme dans quasiment toutes les grandes villes de France, les bars et les restaurants resteront ouverts, mais jusqu'à 22h maximum à partir de la semaine prochaine. Ceci dit, les préfets ont la liberté d'être plus ou moins sévères en fonction des situations locales. On attend maintenant les décisions. Dans ces grandes villes, les salles de sport et les gymnases vont également fermer. La jauge de spectateurs va être descendue à 1000 personnes maximum. Le procès des attentats de janvier 2015 a été suspendu aujourd'hui et ne reprendra pas avant demain matin. Un accusé a fait un malaise. Il a été ramené en cellule pour y subir des examens médicaux. Le groupe Total confirme que sa raffinerie de Grand Puy en Seine-et-Marne va fermer pour être transformée en plateforme zéro pétrole avec des suppressions d'emplois. Mais le groupe s'engage à ce qu'il n'y ait aucun licenciement. Et le temps demain, il sera à nouveau très instable sur tout le pays. Plus de la pluie sur la moitié nord, sur le sud-ouest, avec là-bas également des risques d'orage. Des éclaircies, il n'y en aura qu'autour de la Méditerranée et dans le Lyonnais. Et on termine avec le quintet à l'instant, le résultat, le 12, le 4, le 13, le 16 et le 15.
Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL
avec Pascal Pro.
Le duel des auditeurs ont la parole.
Je salue Sylvain Maillard qui est député de Paris et porte-parole du groupe La République En Marche à l'Assemblée Nationale. Bonjour.
Bonjour Pascal Pro.
Merci d'être avec nous. Roland Aigui est également là. Vous êtes président de l'UMIH, c'est l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie. La question est simple, les mesures sont-elles excessives, justifiées? Je propose peut-être de commencer avec Monsieur Aigui.
Mais écoutez, tout simplement, quand on a entendu le ministre de la Santé hier soir à 20h faire cette annonce, il y a eu un vent de panique général sur l'ensemble de la France. Il y a un vrai traumatisme dans ce domaine-là. C'est un vrai cauchemar pour la profession, puisqu'il faut rappeler quand même très rapidement que depuis le mois de mars, il y a la majorité sur les 4 premiers mois qui n'ont pas travaillé, qui ont leur entreprise fermée. Donc on partait sur effectivement ce qu'avait dit le président de la République, zéro recette, zéro dépense, on n'allait pas du tout là. Donc oui, ce matin, j'ai demandé au gouvernement, par l'intermédiaire de Bruno Le Maire, de retirer au plus vite, j'allais dire, cette mesure, parce qu'elle est inconséquente. Et on sait très bien que maintenant, nos entreprises, on n'est pas dans le rebond, on n'est pas dans la relance, on est dans la survie. Il va y avoir effectivement, d'ici, dans les semaines qui arrivent, dans les jours qui arrivent, une casse économique et sociale terrible. Donc on n'avait vraiment pas besoin de ça hier soir.
Monsieur Maillard.
Oui, permettez-moi juste, Pascal Pro, vous m'avez promis que je pouvais répondre à ce que vous avez dit juste avant sur les lits d'hôpitaux, en disant mais je ne comprends pas pourquoi le gouvernement n'a pas ouvert. Et voilà. Et vous avez clos le débat, enfin parlé directement et puis lancé la publicité. Moi, je vous dis une seule chose, entre mars et avril et mai l'année dernière, et maintenant, on n'a pas trouvé 4 000, 5 000, 10 000 médecins qui vont accompagner des lits, parce que de ce que vous dites, on a l'impression qu'on n'a qu'à aller chez Ikea, acheter des lits et les mettre dans un endroit pour pouvoir...
C'est ce que dit Philippe Juvin.
C'est pas comme ça que ça fonctionne.
Philippe
il faut
Juvin,
du monde.
Et il dit, on ne le fait pas, c'est une volonté politique.
On n'a pas le personnel soignant pour pouvoir tripler ou quadrupler les possibilités de lits dans les hôpitaux. Donc Philippe Juvin ou pas, je vous assure, venez avec nous. Si vous avez 20 000 médecins disponibles, c'est avec grand plaisir.
Il y a 4 000 lits privés de cliniques privées. Il y a 4 000 lits plus.
Mais un lit, c'est un médecin. Un lit, c'était des infirmières. C'est du personnel derrière. C'est pas un lit avec des matelas et draps dessus. Ce serait pas un souci, ça. La seule difficulté, c'est évidemment le personnel soignant derrière. Pardon. Je voulais juste faire cet aparté qu'on soit d'accord dessus. Ou en tout cas, essayer de l'être. Évidemment, moi, j'entends ce que vous dites. Il n'y a que des mauvaises décisions à prendre. Vous savez, je me souviens d'un propos grave d'Edouard Philippe au mois de mars dernier, qui disait, voilà, moi je n'ai que de choix entre des mauvaises solutions. Il n'y a de choix, monsieur, qu'entre des mauvaises solutions. La seule chose, c'est qu'on est sur une trajectoire qui, de ce que l'on regarde, particulièrement à Marseille, particulièrement en Guadeloupe, dont on ne parle pas suffisamment, une trajectoire où, dans quelques semaines, ça va aller relativement vite, nous risquions de nous retrouver dans la même situation que ce que nous avons connu en mars dernier. Donc, ce que nous voulons faire, de ce que nous avons appris, c'est de faire en sorte que la bulle sociale, c'est-à-dire que chacun d'entre nous, dans ces zones-là particulièrement, mais aussi à Paris, nous sommes à Paris, qu'à Paris ce soit la même chose, que la bulle sociale fasse en sorte que nous voyons moins de personnes pour moins... transmettre potentiellement le virus. C'est très difficile, la situation est extrêmement difficile. Et j'entends votre difficulté, vous savez très bien, je suis moi-même entrepreneur et je sais la difficulté dans laquelle on va plonger bon nombre de cafetiers, d'hôtels aussi, l'hôtellerie qui est largement touchée, mais il y en a beaucoup d'autres secteurs qui sont à l'arrêt. Hein. Les boîtes de nuit, l'événementiel, c'est ce qui continue à être à l'arrêt.
Les traiteurs, les discothèques.
Nous devons être là. Et moi, ce que je veux vous dire, c'est que nous devons être là, nous serons là, nous avons été là, nous continuerons à être là. Le gouvernement, la majorité, les députés de La République En Marche seront là.
Monsieur le député, moi, c'est effectivement sur le premier sujet que vous avez évoqué, j'ai le sentiment effectivement que le gouvernement fait de notre secteur la variable d'ajustement. par rapport aux lits, par rapport aux hôpitaux. Et on a un sentiment très désagréable, c'est-à-dire qu'on est montré droit. Pourquoi effectivement, nous, puisqu'on est quand même, nous sommes des chefs d'entreprise, moi-même responsable, et d'une organisation responsable, toutes les semaines, effectivement, on a écrit à nos adhérents pour leur dire, attention, respectez ce protocole qui est très important. Il y a toujours des mauvais élèves, bien sûr, depuis le mois d'août, on le dit. C'était pas nous à faire la police. Et qu'est-ce qui s'est passé? En dehors des bars et des restaurants et des hôtels, en fait, il y a eu des rassemblements énormes qui se sont faits sur le domaine public. Vous savez bien, vous êtes député parisien, vous savez tout ce qui s'est passé à Paris. C'était le plus grand bistrot était dans la rue à Paris tout l'été. Il faisait très beau, la météo était voilà. Donc, il y a eu aussi, vous le savez, il y a eu des appartements qui ont été loués constamment, sur tout le territoire français, 3-4 personnes, où se retrouvaient 30-40 personnes, faisaient la fête tous les jours. Jamais aucun contrôle. On dit, attention, le problème, effectivement, de la contamination, elle vient de là. On a fermé des plages, on a fait... Jamais, à un moment donné, je ne comprends pas pourquoi le gouvernement, une fois de plus, se retourne contre la vitrine, c'est-à-dire contre les chefs d'entreprise.
On va marquer une première pause, mais c'est vrai que tous les professionnels soulignent, et même dans votre camp, parfois, que fermer les bars à 22h est une mauvaise idée, parce que les gens qui étaient dans les bars vont se réunir dans des appartements privés, et ça va être contre-productif. A tout de suite.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro. 13h, 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
14h09. Et je rappelle qu'on est avec Sylvain Maillard, qui est député de Paris, porte-parole du groupe de La République En Marche, et Roland Aigui, qui est président de l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie. Vous disiez quelque chose d'intéressant, monsieur Maillard. Vous disiez, si on ne prend pas ces décisions-là, dans un mois, on est en gros dans la même situation qu'en mars où on a.
On risque.
Mais la difficulté, si ce que vous disiez était écrit dans le marbre, on serait tous d'accord. Mais ce que vous dites est même contesté. C'est-à-dire Philippe Parola, qui est l'adjoint de Didier Raoult, Martin Blachier, qui est épidémiologiste, Michel Rubirola, qui est la maire de Marseille et qui est médecin, Renaud Muselier disent il n'y a pas de problème à Marseille. C'est sous contrôle, il y a un plateau et il n'y a pas de souci. C'est ça la difficulté pour nous de comprendre ces décisions, puisque les médecins eux-mêmes ne disent pas la même chose.
Vous demandez à des responsables politiques, dont certains sont en campagne, très clairement. Ils sont en campagne parce qu'on a les élections au mois de mars.
Madame Rubirola, elle ne veut pas que ses administrés meurent.
Vous savez, j'ai fait un débat avec sa deuxième adjointe, Samia Ghali, il y a 3 semaines, juste après le match au MPSG, avec, vous vous souvenez, sur la Canebière et un peu partout, dans tous les bistrots, la fête, pas de masque, et on était les uns sur les autres. Et puis finalement, Samia Ghali nous disait, écoutez, oui, c'est vrai que c'est pas très bien, mais enfin bon, quel jour historique, donc voilà, on oublie tout. Moi, je voudrais juste dire une chose. Gouverner, c'est prévoir. On a vécu quelque chose de terrible, un blitz économique, il y a 6 mois, c'est pas il y a pas longtemps, c'est pas il y a 10 ans, c'est il y a 6 mois. Et là, on est parti sur une trajectoire qui pourrait nous faire ressembler à revivre la même chose. On veut éviter tout reconfinement massif. C'est très clair. On prend nos responsabilités. Le gouvernement prend ses responsabilités en graduant. Oui, c'est difficile pour ceux qui doivent fermer. Je l'entends. Il faut que nous accompagnions ça. Mais dire non, on verra bien ce qui se passera, je crois, est irresponsable. C'est pas notre politique et nous ne transigerons pas là-dessus.
Monsieur Aigui.
Oui, merci. Bruno Le Maire, il y a quelques instants, nous a dit que de nouvelles mesures cet après-midi allaient être annoncées par rapport à ce qui s'est passé hier soir. Moi, je reviens toujours sur quelque chose, puisqu'on est dans la politique. Comment ça se fait qu'on a pris une décision comme ça sans nous consulter? Quelques jours avant, on aurait été capable peut-être de trouver une autre solution. On est modéré dans ce domaine-là. On est resté KO debout hier soir. Personne nous avait averti une telle mesure. On parlait des 22, 23 heures de fermeture pour les bars, les restaurants, comme ça. Mais là, c'est une question de survie d'entreprise. Le vrai problème, c'est que moi, je mesure le poids économique. Quand je dis qu'il va y avoir 20% d'entreprises d'ici les 3 ou 4 mois qui vont faillir, qui vont déposer le bilan, et derrière qu'entre 200 et 250 000 personnes qu'on va retrouver au chômage, c'est ça l'enjeu et la responsabilité de mon organisation. Alors, c'est pour ça que je ne vais pas me mettre en face, effectivement, des grands médecins pour savoir qui a raison ou qui a tort. Le problème, c'est qu'à un moment donné, il faut avoir un petit peu de respect par rapport à l'entreprise et par rapport à l'économie. Et là, je ne comprends pas cette... Je ne comprends pas, vraiment pas le même...
Alors les auditeurs interviennent évidemment régulièrement dans ce débat, forcément, ils ont le droit de donner leur avis, c'est le cas de Mathéo qui a 22 ans. Alors Mathéo, c'est intéressant d'avoir un étudiant parce qu'on vous accuse souvent, les étudiants, de ne pas respecter les gestes barrières, d'être dans les bars le soir, de ne pas forcément porter de masque, de ne pas être assez vigilant au fond. Je ne sais pas si c'est votre cas ou pas.
Bonjour Pascal, bonjour messieurs.
Bonjour.
Alors, j'aimerais bien qu'on me donne les moyens de respecter les gestes barrières. Moi, effectivement, j'ai des professeurs qui sont très, très dociles par rapport aux ordres de la fac et qui disent bien, à chaque fois qu'un élève a un masque qui est au bout de son nez, remontez-le bien. Par contre, là où il y a l'hypocrisie, c'est qu'on nous fournit des amphithéâtres où il y a malheureusement plus d'élèves qu'il n'y a de place. Donc imaginez bien que de mettre un masque, mais se trouver à coller physiquement au collègue de droite et au collègue de gauche, au final, l'effectivité, elle est complètement nulle. Mais l'hypocrisie, on la voit à la fac, mais on la voit ailleurs. C'est une hypocrisie, cette deuxième vague. Heureusement qu'il y a des tests pour nous dire qu'il y a des malades. Parce que, bon, effectivement, il y a une hausse sensible des morts. Mais sinon, on a des gens qui sont malades, mais asymptomatiques. Aujourd'hui, ce qu'on est en train de faire avec les mesures barrières et les annonces, ce sont simplement des démonstrations d'un gouvernement d'eau tiède. C'est-à-dire un gouvernement qui n'est pas habitué à diriger. C'est un gouvernement d'amateurisme et qui tape du poing sur la table parce qu'il ne sait pas quoi faire face à une crise. Aujourd'hui, il y a des entreprises qui meurent. On parle de chiffres. Mais derrière les chiffres, c'est des drames familiaux qui se passent. Il y a des entreprises qui sont à zéro de chiffre d'affaires depuis le 13 mars, mais derrière ça, c'est des gens qui vont se retrouver sans rien après, sans rien du tout. Moi, mon job étudiant, c'est d'être chauffeur pour des Américains qui sont en France. Ma boîte, elle est à zéro de chiffre d'affaires. Il y a rien. La foire de Caen, moi je suis de Caen, il y a une foire internationale où il y a tous les artisans de ma ville qui viennent pour défendre leurs produits. Ils comptaient sur cette foire, sur ces 10 jours pour essayer de rebondir. Qu'est-ce qu'on voit, c'est que les gens ont peur. Et là, la foire, elle est obligée d'être gratuite. Mais il n'y a quand même personne dans les allées. Et quand je vais sonder les commerçants, ils vont tous me dire qu'ils pensent à fermer la foire.
Alors, Monsieur Maillard va vous répondre. Mais vous disiez, faut faire baisser le nombre d'interactions. Mais la vérité, Monsieur Maillard, c'est que c'est pas possible. C'est pas possible. Sauf si on reste tous chez nous. C'est ça la difficulté, parce que vivre avec ce virus.
J'ai dit faire baisser le nombre d'interactions, pas dit ne pas avoir d'interactions.
Oui, mais vivre
de
avec
faire
le
baisser
virus,
quand
c'est
quand vous
d'accepter.
Allez travailler, vous allez travailler. Non, j'entends encore une fois, et votre auditeur vient de le dire, il est de bon ton de dire que c'est difficile. Oui, c'est difficile. Et quand il parle de la foire de Caen, effectivement, c'est dur, comme dans toutes les foires. Dans l'événementiel, il n'y a plus rien depuis 6 mois. Et vous savez, je vais vous dire une chose, c'est qu'il n'y aura probablement rien dans les 6 mois prochains. Et c'est la même chose dans les pays voisins, et d'autant plus que les touristes ne viennent pas parce qu'il faut des tests, il faut des mises en quatorzaine ou 7 jours en France, et que la situation va durer. Oui, c'est une situation économique extrêmement difficile. Quand on dit qu'on est à moins 8% de PIB, c'est que la situation, elle est difficile. Ne croyons pas qu'on est sorti, tout va bien, et que finalement, on est juste là pour embêter les gens. C'est ça que encore une fois, moi, je suis prêt à discuter de tout. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on est dans une situation exceptionnelle, difficile, dans laquelle il faut prendre des décisions.
Qui va durer.
La seule chose, et je voudrais qui va durer, je l'espère le moins longtemps,
mais
la seule chose, et vous l'avez dit tout à l'heure, dès ce matin, vous étiez avec Bruno Le Maire, qui vous a dit « Nous serons à vos côtés, on va vous aider pour pouvoir continuer ». Moi, je pense aux gens dans l'événementiel aussi. Je pense aux boîtes de nuit. Je pense à tous ceux qui ne peuvent plus du tout travailler. Nous devons être à côté. Et nous serons jugés, je le dis. Les députés, comme les ministres, seront jugés sur le fait d'accompagner, de faire en sorte que vous puissiez avoir une vie économique après. Mais oui, à l'heure actuelle, c'est difficile. C'est difficile pour tout le monde. C'est à nous de faire le job pour vous accompagner.
Je vous entends, monsieur le député, effectivement, on reconnaît, on l'a encore dit ce matin, il y a eu des aides extraordinaires de la part du gouvernement et de la réactivité, puisqu'on travaille, j'allais dire, tous les jours avec eux depuis le 15 mars. Donc il n'y a pas de problème, il y a du soutien. Je ne vais pas le nommer, je ne vais pas faire tout l'inventaire, mais ce que j'ai retenu aussi, c'est ce que vous avez dit, je suis persuadé. En parallèle, je préside la Confédération des acteurs du tourisme, c'est toute la chaîne du tourisme. Il y a quelques jours, même pas une semaine, on était tous autour d'une table. C'était épouvantable ce que j'ai entendu. Ça veut dire quoi? En résumé, c'est qu'en 2021, rien ne sera reparti. Rien ne sera reparti. Et si jamais, pour la Coupe du Monde 2023 de rugby et les Jeux Olympiques 2024, on est sur nos deux jambes, ce sera formidable. Vous imaginez? C'est-à-dire ce moment de soudure qu'il faudra avoir entre l'économique, le politique et l'entreprise. On parle pas de 15 jours, 3 semaines, 1 mois. Oui. On parle effectivement
D'où la pub que nous allons laisser passer pour prolonger ce débat. Parce qu'effectivement, moi je pense qu'il faut définir maintenant une stratégie à long terme. Parce que le virus, il va rester pendant 2 ans. Donc si vous faites 15 jours qu'on reprend, 15 jours qu'on reprend, 15 jours qu'on reprend, moi à mon avis, il y a un truc qui marche pas.
Parlons-en juste après la publicité, avec plaisir.
Jusqu'à 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Praud.
14h19, on est avec Sylvain Maillard. D'abord, je vous remercie d'être là, parce que c'est pas facile pour vous. Hein, évidemment, vous êtes député de Paris.
C'est un plaisir, Pascal.
Mais non, mais vous êtes porte-parole du...
Et je porte la parole, je suis très fier de ce qu'on essaye de faire, on se bat. Et c'est extrêmement difficile.
Pour vous.
C'est extrêmement
difficile. Je suis sûr d'ailleurs que M. Egui le pense aussi. Mais alors, selon vous, et en responsabilité, comme on dit, qu'est-ce qu'il faudrait faire, ou plus exactement, qu'est-ce qu'il faudrait ne pas faire ?
Moi, je crois qu'il faut prendre en compte trois critères. Le premier, c'est la longueur. C'est-à-dire que tant qu'on n'aura pas évacué l'épidémie ou le vaccin, on sera toujours dans cette situation-là. Et manque de chance, on n'a pas de calendrier par rapport à ça. Personne n'a le calendrier, c'est bien dommage. Deuxièmement, on sait par exemple qu'effectivement, je reviens dans mon domaine que je maîtrise un petit peu, sur le tourisme, et vous l'avez dit, j'ai rencontré tous les directeurs généraux des hôtels de prestige en France. En septembre 2019, ils étaient à 85% de taux d'occupation. En septembre 2020, ils sont à 12% d'occupation.
Ça, c'est hôtel 4 étoiles, 5 étoiles ?
5 étoiles. Palace. D'accord. Ce qu'on appelle les palaces français.
D'accord. Ils étaient d'ailleurs tous fermés.
Ils sont
à
tous
Paris,
fermés.
Je ne sais pas s'ils ont rouvert ou pas, mais ils étaient fermés.
C'est quand même des signes très forts. C'est des signes très forts quand on parle de l'avenir et quand on parle de l'économie. Il faut savoir que ce sont des grands bateaux qui ont entre 400 et 600 salariés, des professionnels.
Bien sûr.
Donc
mais qu'est-ce qu'il faudrait ne pas faire ? Est-ce qu'il faudrait ne pas fermer, selon vous,
par exemple, les bars et les restaurants à Marseille ? Alors, sur ce qui s'est passé hier soir, je crois qu'effectivement, c'est une fausse manœuvre politique. C'est simplement un peu pour. On dit que c'est pour faire de la prévention. Peut-être, mais ça ne rassure personne. Et on sait très bien que c'est pas le résultat de la. C'est pas ça qui va effectivement diminuer l'épidémie ou la contamination. C'est pas les bars, puisque chez nous, dans la majorité de nos entreprises, le protocole, puisque c'est nous qui l'avons écrit, dessiné avec le gouvernement, et il est respecté. Vous allez dans tous les restaurants qui se dit restaurant, vous allez dans tous les cafés. Dans les cafés, on peut plus prendre un verre debout. Actuellement. Je l'ai encore vu hier soir à Paris. Hein. Donc c'est respecté, il n'y a pas de souci. Ce qu'il faudrait effectivement, c'est tout ce qu'il y a autour, ce qui est incontrôlable, c'est tout ce qui se passe. Là, je regardais, malheureusement, je me suis amusé, on parlait d'université, j'écoutais Mathéo avec beaucoup de plaisir d'ailleurs. Le monde universitaire, c'est le plus grand bistrot de France. Hein, parce qu'eux, ils n'ont pas de problème de 21h ou 22h. Ils ne vont pas se coucher à 21h. Voilà. Donc il y a des choses qu'il faut réglementer, mais qui sont hors. Quand je vous parlais effectivement dans le domaine public, dans le domaine de toutes ces grandes fêtes qui se font, et encore aujourd'hui, tous ces rassemblements de jeunes, effectivement, ça.
Alors, est-ce qu'on pourrait imaginer, parce qu'on est tous d'accord que ces mesures sont prises, parce que les réas explosent, mais qui entre dans les services réanimation ? Ce sont des gens très âgés ou des gens, ce qu'on appelle en comorbidité. Donc, est-ce qu'on pourrait imaginer quelque chose qui n'a jamais été encore envisagé aujourd'hui ? C'est d'avoir des procédures...
Pour mieux les protéger.
Pour mieux les protéger, effectivement, et qui les visent, eux, directement.
Mais permettez-moi, à travers votre micro, de redire... Même s'ils le savent très bien, mais je crois qu'il faut le redire. C'est extrêmement pertinent ce que vous avez dit. Ce sont évidemment les personnes avec des comorbidités, des personnes de plus de 65 ans, qui sont particulièrement les cibles de ce virus et qui sont particulièrement en danger par rapport à ce virus. Beaucoup font vraiment très très attention. Mais c'est vrai que dans le cadre familial, d'ailleurs c'est surtout là où on se contamine, dans le cadre familial, on fait moins attention.
Et vous vous rendez compte
dans
ce que vous
savez quoi dans le...
Non, c'est mais surtout dans le cadre familial et on ferme les restaurants.
Mais comment on contamine en fait? C'est que on a une vie sociale où là-dedans le virus circule, dans les bars mais aussi dans les salles de sport, dans plein d'endroits, on a une vie sociale. On se contamine, on est pour beaucoup de jeunes ou moins jeunes asymptomatiques, et puis on va rencontrer notre famille plus âgée, on s'embrasse, on ne respecte pas forcément les distances et c'est là qu'on se contamine. C'est le deuxième poste de facteur de contamination. Donc moi j'en appelle à la responsabilité de tous et particulièrement c'est vrai, les personnes, les seniors et ceux qui sont susceptibles d'avoir d'autres pathologies, de faire particulièrement attention. Voilà, on ne s'embrasse plus par exemple. Et oui, c'est dur. Moi c'est très dur. Moi j'embrasse plus mes parents depuis 6 mois, 7 mois, on s'embrasse. C'est hyper difficile, honnêtement, c'est difficile. J'ai des petites filles, imaginez-vous, mes parents qui n'embrassent pas ou qui embrassent avec difficulté leurs petits-enfants. Enfin, c'est bizarre comme vie, honnêtement, c'est bizarre. Et pourtant, il faut continuer à faire ces efforts-là. tant qu'on n'aura pas trouvé une solution. Permettez-moi juste une chose, de demander aussi à vos auditeurs. Il faut que nous ayons nous vacciner contre la grippe. Oui. La grippe, on a un vaccin pour de faire en sorte qu'il y ait le moins de grippe aussi, parce qu'on a beaucoup de mal à faire le distinguo entre grippe et Covid-19. Et donc, on va faciliter la vie. D'abord, déjà, on sera pas malade de la grippe. Et deuxièmement, on va faciliter la vie de nos soignants. Moi, j'en appelle à la responsabilité de chacun. Ce ne sera pas obligatoire. Mais je crois que chacun doit faire un geste et faire en sorte de se vacciner beaucoup plus cette année contre la grippe.
Mais monsieur le député, vous démontrez là qu'effectivement, les grands rassemblements familiaux sont les plus dangereux. La question que je pose, moi, c'est pour ça que je trouve que la décision qui a été prise hier soir pour les bars et les restaurants est tout à fait discriminatoire et injuste. Parce que ça vous démontre qu'effectivement, c'est pas dans ces lieux-là qui sont les plus que le danger existe.
Donc il y a une incohérence
par rapport à cette décision. Je reviens pas par rapport à ce que vous venez de dire. Il y a une incohérence incroyable. C'est pour ça que je crois qu'il faut rapidement réfléchir. Vous savez l'ensemble. J'ai eu l'Assemblée nationale ce matin. Il y a un groupe de très important de députés qui effectivement trouvent cette décision pas à la hauteur de ce que ça devrait être.
Il nous reste quelques secondes et il est l'heure de conclure. Ça va être Laurent Tessier qui va nous donner le verdict. Mais c'est vrai, par exemple, qu'on ne peut pas interdire, j'imagine, les réunions familiales. On ne peut pas dire les plus de 65 ans, vous ne voyez pas vos petits-enfants. Ça n'existe pas, c'est pas possible.
Bah, c'est pas que c'est. Par exemple, en Angleterre, maintenant, on ne peut plus se réunir à plus de 6 personnes.
Oui.
Voilà. Et c'est quelque chose qui pourrait, c'est impossible. Je parle évidemment pas au nom du gouvernement, mais c'est vrai que c'est envisagé. Dans beaucoup de pays et c'est appliqué à l'heure actuelle en Angleterre.
La pub, Flavie Flamand à 14h. Mais elle est de retour, Flavie Flamand ? Non ! Bonjour Flavie, ça me fait plaisir de vous voir. À tout de suite.
Jusqu'à 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.